Alors bonjour Bernard Noël, je souhaitais vous avoir à l'émission pour parler de votre livre Artaud et Paul, qui a été publié en 2003 dans l'édition Ligne, dirigé par Michel Suria. Je souhaitais vous interroger à ce propos de ce livre, à propos de Paul Thévenin, en ce moment où il y a eu le magazine littéraire qui a fait un numéro spécial en septembre sur Artaud, qui a été dirigé par Evelyne Grossman, et en ce moment également où sort les œuvres d'Antonin Artaud, un gros volume dans la collection Quarto chez Gallimard, qui ne mentionne pas tout simplement le travail de Paul Thévenin, et que en gros
pour être juste, Evelyne Grossman mentionne dans sa préface une douzaine de lignes de travail de Paul Thévenin pour ensuite suggérer qu'elle s'est approprié les manuscrits d'Artaud et qu'elle les a rendus inaccessibles pendant des années. Donc c'est à la fois un petit coup de chapeau et un grand coup de pied. Et on a en effet le sentiment, à lire ce folio, d'ailleurs ça a été la réaction de Derrida, qui a écrit une lettre juste avant sa disparition dans La Quinzaine littéraire, pour reprocher violemment à Madame Grossman d'essayer de faire disparaître Thévenin. Or, moi je crois qu'il n'y aurait pas d'Artaud sans Paul Thévenin. Je veux bien qu'on critique le travail de Paul, mais ce travail est tellement indispensable que je ne vois pas comment on peut s'en passer. Alors, ce que lui reproche apparemment Grossman, c'est entre autres, d'avoir rassemblé les œuvres complètes en les répartissant par thème. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre, je n'ai pas encore lu.
J'ai voulu montrer les mains et j'ai regardé en gros, mais j'ai pas lu la préface. Désolé du coup.
Si, non, mais parce que, en effet, je vous dis, il faut lui rendre une relative justice, c'est qu'elle ne peut quand même pas faire l'impasse sur le travail de Paul.
D'accord.
Alors évidemment, si vous voulez, ce qu'on peut se demander. Oui, donc je vous disais, ce qu'elle reproche à Paul, c'est d'avoir, au fond, réparti les œuvres thématiquement. La répartition des œuvres, à l'intérieur des œuvres complètes, elle est quand même plus ou moins chronologique. Mais il faut aussi dire que Paul Thévenin a passé sa vie à rechercher tous les manuscrits, tous les textes, documents Antonin Artaud, dans un souci de rassembler le tout. Et je veux dire, ce souci, il est quand même fondamental, d'une part, et d'autre part, une bonne partie de ses œuvres complètes est constituée par les cahiers successivement de Rodez et de Paris. Ces cahiers, ils sont bien publiés dans l'ordre chronologique. Et alors, ce qu'il reste. Alors, au fond, elle reproche aussi, apparemment, l'énormité des œuvres complètes. Les 26 volumes, il doit y en avoir 31, enfin il devrait y en avoir 31. C'est pas de la faute de Paul Thévenin si Artaud a écrit 31 volumes. Je veux dire, il fallait.
Effectivement.
Et il y a le travail annexe, si vous voulez, chacun de ces volumes est accompagné de notes considérables.
Tout à fait.
Qui font vraiment toute l'histoire d'Artaud, de ses textes, etc., de ses rapports avec les autres écrivains, avec l'histoire de son temps. C'est un instrument de travail indispensable. Donc je vois pas comment elle pourrait s'en passer elle-même, sauf à se le réattribuer. Alors si vous voulez, l'autre chose difficile, enfin pour moi difficile à vivre, c'est quand même que si Paul a été en butte à la haine vraiment de la famille d'Artaud, à ses héritiers, qui sont M. Malocena, qui se sont arrangés pour lui faire un procès dans lequel elle n'a été soutenue que par ses amis, parce que Gallimard aurait pu prendre son parti.
Et il n'a pas fait,
ils ont attendu que le procès ait lieu. Ce procès a été favorable à Paul. Il condamnait les héritiers à accepter que son nom figure.
Oui,
parce qu'il y a encore ça.
Oui,
cet énorme travail qu'elle a fait sur les œuvres complètes, elle l'a fait anonymement, parce que la famille ne voulait pas que son nom apparaisse. Bon, donc ce jugement final a contraint l'éditeur, et donc la famille, a accepté, les oblige même à faire enfin paraître son nom.
Mais alors, il ne paraît pas dans le tome, dernier tome paru.
Non, mais là, c'était juste, c'était le dernier tome paru le 26, Il a dû paraître. Ah oui, il a paru juste après le procès. D'accord. C'est vrai, parce que ce tome était en suspens. Et ce tome était particulièrement précieux, puisque c'est la conférence du Vieux Colombier. Bon, Grossman, j'ai vu, je ne sais où, dit que cette conférence n'existe pas. C'est vrai qu'elle n'existe, si vous voulez, elle n'existe pas nominalement, dans la mesure où Artaud n'a pas rédigé un texte qui s'appellerait un texte définitif, mais il en a rédigé. Cette chose lui tenait tellement à cœur qu'il a rédigé une succession de brouillons, enfin, qui occupent ce volume, et qui sont quand même un des textes les plus vifs d'Antonin Artaud.
C'est même surprenant que ce livre-là, enfin, ce texte-là, ne puisse être lu qu'en 1994. Quoi. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez terrible. Hein.
Et donc, pour moi, Paul est morte à cause de ce procès, de cette suspension. Pas, je veux dire, c'est un peu différent, à cause de la suspension de ses œuvres. Elle est morte d'un cancer. En général, on ne meurt pas tout à fait par hasard d'un cancer. Bon, ça, c'est personnel et j'en ai souffert et je n'accuse personne. C'est peut-être bon. Mais donc, en plus, ce jugement obligeait à la publication plus ou moins rapide des six volumes qui manquent, puisqu'il il manque six D'accord. volumes, mais ces six volumes existent. Ils ont été remis par D'accord. Paul à son éditeur, c'est-à-dire Gallimard. Et si vous ouvrez en effet le tome 26, vous verrez que le tome 27 et 28 sont annoncés, ça fait donc 10 ans, et depuis 10 ans, on les attend. Alors, le quarto de Madame Grossman, c'est évidemment un livre pratique, je veux dire un format pratique, et apparemment c'est un succès assez considérable. Je ne suis pas convaincu que tous les gens qui vont l'acheter vont le lire, mais en effet on a tout à coup pour je ne sais plus 30 euros 1600 pages ou 1800 pages, enfin peu importe, où en effet il y a l'essentiel d'Antonin Artaud. Ce qui est aussi agaçant, c'est que c'est les remerciements en tête de tout, du quarto, comme en tête des dessins pour assassiner la magie, à monsieur Malocena. Bon, tout à fait. Dire, c'est une espèce d'hommage à l'héritier, lequel héritier ne s'est réveillé quand même qu'assez tard.
Et les copyrights même dans le magazine littéraire, enfin c'est quand même assez atroce, quoi. Les lettres d'Antonin Artaud, juste en dessous, il y a copyright Serge Malocena, copyright, c'est vrai que c'est terrible.
En plus, ce monsieur se donne le ridicule de faire un procès à une revue d'avant-garde qui est Luna Park, dirigé par Marc Dachy, parce que Marc Dachy a publié, il y a je crois 21 ans, dans Luna Park, deux textes d'Artaud. Mais le procès ne lui a été intenté qu'à présent, D'accord. parce qu'il a publié un autre texte d'Artaud dans le dernier numéro qui a paru, disons dans les deux dernières années, je n'ai pas la date en tête. Et monsieur Malocena, Marc Dachy est condamné par le tribunal, ça lui coûtera 54 000 euros.
Pourquoi les six autres volumes des œuvres complètes, les six derniers, pourquoi ils ne sont pas publiés dans ces cas-là?
Alors ça, évidemment, je ne peux pas vous répondre, D'accord. puisque c'est la volonté de l'éditeur. Il les a en main. Enfin, la petite fille de Paul me l'a confirmé hier. Les six volumes ont bien été remis à Gallimard. Et, si vous voulez, ce sur quoi on peut s'inquiéter, c'est... ces six volumes comportent la même quantité considérable de notes de Paul. Donc, est-ce qu'elles sont... Qui va en faire quoi? Tout Forcément. En ayant l'air de n'en rien faire. Il y a ça aussi. Si vous voulez. J'ai reçu, moi, une lettre d'un inconnu qui avait lu mon Artaud et Paul et qui m'a envoyé le double d'une lettre qu'il expédiait à Madame Grossman en l'accusant violemment de malversation, au fond. La lettre de Derrida ne l'accuse que de vouloir faire disparaître Paul, et je pense que Derrida devait être assez amer à l'idée qu'il avait donné un entretien à Madame Grossman
dans le magazine littéraire
et qu'elle l'avait berné, en fait, parce que bon, il est bien normal d'interroger Derrida sur Artaud, qui a été son...
Tout à fait.
C'est une œuvre à laquelle il est revenu périodiquement toute sa vie. Et ce texte, Artaud le MoMA, a été prononcé à New York à une époque, comme le mien d'ailleurs au départ, à une époque où il y avait tout un hommage à Antonin Artaud, avec une exposition de ses dessins au MoMA, justement. Alors, Derrida jouait entre Artaud le MoMA et Artaud le MoMA, puisque le musée d'art moderne s'appelle le MoMA.
Et alors, puisqu'on est dans ces questions un peu de procès autour de Paul Thévenin, pourquoi ça devait être absolument anonyme, le travail de Paul Thévenin? Parce que c'est assez surprenant, quand j'ai commencé à lire les œuvres complètes d'Artaud, j'ignorais complètement que derrière, il y avait Paul Thévenin, en fait, qui s'en était occupé. Je pensais que c'était un éditeur chez Gallimard. Et c'est vrai que ça fait curieux, on se demande d'où viennent les notes. Je me suis souvenu que... Quand j'avais commencé à lire les œuvres complètes, je me suis toujours demandé, mais ces notes, d'où c'est qu'elles viennent, parce qu'elles sont très précises. Du coup, j'avais un sentiment de malaise, parce qu'on ne savait pas du tout qui avait fait ce travail-là, en fait. Et pourquoi il y avait absolument ce travail qui devait se faire dans l'anonymat? C'est quoi cette demande bizarre?
Non, la raison est ça remonte loin. Si vous voulez, quand Artaud meurt, il vient de signer un contrat avec Gallimard pour ses œuvres complètes. Il existe une préface d'Artaud à ses œuvres complètes. Bon, mais je pense qu'à l'époque, Gallimard pensait que les œuvres complètes d'Artaud, ça devait faire à tout casser 3-4 volumes, puisqu'on connaissait Artaud à la fin de la période surréaliste. Dans les années 30, il n'a pas publié, quantitativement, un énorme nombre de textes. Donc on devait penser ça. Or, il se trouve qu'Artaud, avant de mourir, a fait un testament en faveur de
Paul Thévenin,
pour que Paul s'occupe de ses papiers. C'est assez troublant parce que Artaud demande, la veille de sa mort, demande à, je ne sais plus si c'est au mari de Paul, ou d'aller chercher un papier timbré parce qu'il veut que ça soit sérieux. Donc il fait ce testament, mais il oublie de le signer. Et le lendemain, on le trouve mort dans sa chambre à Ivry. Donc on peut supposer qu'il a eu la prémonition de sa mort. D'ailleurs, il annonce qu'il n'écrira plus. Enfin, ce même jour qu'il a terminé. Bon. Alors là, premier point, il confie à Paul la malle qu'il avait accompagnée au Mexique, qui est pleine de ses fameux cahiers. Et Paul, je suppose, prend les restes de manuscrits dans la chambre d'Artaud, quand on le trouve mort. Donc elle se trouve dépositaire de cette œuvre, et la famille ne cessera de le contester. Mais à l'époque, il y a quelqu'un qui est encore en vie, c'est la sœur d'Artaud, qui a un rôle, ambigu, si vous voulez, parce qu'à la fois, elle a aidé Artaud, c'est vrai, quand il était interné à Villévrard, au début de la guerre. Ensuite, elle supportait pas sans doute les déclarations d'Artaud, la lettre au pape, tous ces actes au fond provocateurs et violents. Et cette œuvre devait leur sembler très sulfureuse. Donc ils avaient une envie très relative de l'avoir publiée. Alors, apparu un premier tome des œuvres complètes d'Artaud, malgré tout, sans doute, puisque le projet d'œuvre complète avait été signé par lui, et Gallimard avait besoin de quelqu'un pour éditer ses textes. Et c'est à ce moment-là que ce travail était confié à Paul, au fond en respectant la parole d'Artaud, enfin la volonté d'Artaud, disons. Et ce premier volume a paru, je ne me rappelle plus exactement la date, mais vers 51 ou 52, oui, sans doute plutôt 52, et a paru anonymement parce que l'héritière, donc d'Artaud, sa sœur, ne voulait pas que le nom de Paul Devenin figure. Ensuite, il y a eu une interruption assez longue dans la publication de ses œuvres complètes parce que la famille ne voulait plus, je pense. Ne voulait plus de Paul, ne voulait plus des œuvres. Puis, il y a eu une espèce de tolérance qui s'est établie, mais ça a pris peut-être 7-8 ans avant que le tome 2 ne paraisse. Et à ce moment-là, c'est la famille qui exigeait que Paul ne figure pas sur le... Et donc Paul a fait tout ce travail volontairement, anonymement. Enfin, a bien accepté d'être anonyme dans l'accomplissement de ce travail. Et elle est restée anonyme jusqu'au tome 26, c'est-à-dire jusqu'à sa mort. Le tome a paru, je ne sais plus s'il a paru juste avant sa mort ou juste après, je crois que c'est juste après. Il me semble aussi que si Gallimard avait été solidaire, il aurait publié ce tome 26 en dépit du procès. Mais, je ne suis pas convaincu non plus que les Gallimard avaient un enthousiasme fou devant cette
œuvre considérable.
Cette œuvre considérable qui sans doute ne se vendait pas beaucoup à partir du tome 15 et de ces fameux cahiers de Rodez et de Paris. Qui sont d'une lecture, il faut bien dire, difficile. Si on veut les lire de la première page à la dernière, il faut quand même y mettre son temps.
Après le tome 20-25, Serge Malocena refait un procès à Paul Thévenin et il l'accuse d'inventer le texte d'Artaud. Alors, d'où c'est que ça vient cette accusation? Parce que c'est terrible. C'est une nouvelle censure, quoi, quasiment. Oui. C'est quelque chose de nouveau dans la censure. On accuse de falsifier et d'inventer un texte.
Non, mais ça, évidemment, ça ne vient pas que de Malocena. Je pense que Malocena a eu des complices que je ne connais pas ou j'en soupçonne quelques-uns, y compris dans l'entourage de Paul, de l'avoir accusé, falsifier le texte. C'est peut-être, c'est vrai que c'est l'expression qui a été employée, mais je crois que Malocena est allé jusqu'à l'accuser d'inventer le texte d'Artaud. C'est d'une telle absurdité que, je veux dire, Paul, elle le raconte, il me semble, dans l'un des textes du livre qu'elle a laissé, qui est Antonin Artaud, ce désespéré qui vous parle. Peut-être, si vous voulez, moi évidemment, ce tome m'est précieux parce que le texte qui est peut-être le plus significatif m'a été adressé comme une lettre à un ami. Donc, si j'ai écrit Artaud et Paul, c'est aussi parce que je me sentais en dette vis-à-vis de Paul. En fait, la famille s'est réveillée le jour où on a volé à Beaubourg, dans l'exposition Artaud à Beaubourg, un cahier. Quelqu'un a volé, paraît-il, un cahier. Et la presse a dit que ce cahier valait 400 000 francs. Je crois me rappeler de ça. Alors tout à coup, c'était une mine d'or extraordinaire. Là, et dont Paul était dépositaire. Et donc, on lui reprochait comment elle n'était pas en effet l'héritière directe d'Artaud. Donc, elle a eu la précaution, et ça vous verrez aussi comment ça tourne, elle a déposé à sa mort les, je ne sais plus combien, 456, je crois, enfin, peu importe le chiffre, mais enfin, c'est juste pour dire qu'il est considérable.
Tout à fait.
Tous les cahiers ont été déposés à la Bibliothèque nationale, et tous les dessins d'Artaud ont été déposés à Beaubourg. Donc, la famille, je crois, peut maintenant se cramponner.
Pour les récupérer, tout à fait.
Pour les récupérer, la nationale ou Beaubourg ne les lâcheront pas. Bon. Est-ce que vraiment c'est ce vol qui a alerté sur la valeur? Je n'en sais rien, mais. La famille, cela dit, a toujours touché ses droits d'auteur sur la publication des œuvres complètes, et que je sache, ils les ont jamais refusés. Or, ces œuvres complètes n'existaient aussi que par
Paul.
Devait tout au travail de Paul.
Alors, si vous le voulez bien, on va parler maintenant spécifiquement du travail de Paul, dont vous parlez dans Artaud et Paul, et dont Paul justement parle dans la lettre qui vous est adressée. Vous parlez du moment dans Artaud et Paul, du moment où meurt Artaud, et vous écrivez « Une œuvre est terminée, la raison réclame qu'on s'en tienne là, oui, mais terminée en apparence, cette œuvre ne l'est pas en réalité, puisqu'il reste à la rendre lisible. Travail qui exige un lecteur. » Alors c'est Paul lecteur, et vous dites un moment que c'est la lectrice absolue.
Oui.
Ça représente quoi pour vous ?
Alors, oui, il faut évidemment faire une espèce d'état des lieux. Donc, à Arthomer, il y a une partie de son œuvre, une partie relativement infime, mais à l'époque, on ne s'en rend pas compte, qui a été publiée par lui-même. Donc là, aucun problème, elle est accessible. Et ensuite, il y a cette énorme quantité de cahiers manuscrits. Alors, ces cahiers manuscrits sont dans un état de quasi-illisibilité parce que il y a d'abord l'écriture d'Artaud qui est très intéressante à voir d'ailleurs parce que il y a des graphies variables en fonction de son état, de son, comment dirais-je, de la nervosité de sa main, etc. Et dans ces cahiers, il y a aussi des dessins. Voilà une des choses qu'on reproche à Paul. Enfin, Grossman, c'est que Grossman trouve avec raison, d'ailleurs, que
les dessins sont pas à côté
non, mais
du
que si vous voulez que ça fait un tout à l'intérieur des cahiers, la graphie verbale, si je puis, enfin la transposition verbale par la graphie, ça a une importance parce que il y a ce qui d'ailleurs me travaille, il y a comme une transmission physique d'Artaud dans sa graphie. Bon. Et au milieu de cette graphie, il y a des petits dessins. Bon. Alors, en effet, pouvait-on publier, je ne sais plus, ces 400 et quelques cahiers en fac-similé ? Ce n'est pas possible. Aucun éditeur n'aurait fait ça, pas plus autrefois, encore moins autrefois qu'aujourd'hui, mais pas plus aujourd'hui. Enfin, elle a fait ça pour... les dessins, 50 dessins pour assassiner la magie, mais c'est 50 dessins. C'est un bouquin qui coûte 30 euros et qui a quoi 60 pages. D'ailleurs, on peut trouver très discutable le choix de dessins qu'elle a fait. Parce qu'après tout, je veux dire, il y a sans doute quelques dessins qui appartiennent au projet d'Artaud, donc des dessins pour assassiner la magie, mais c'est pas la totalité de ce qu'elle publie, ça je ne crois pas. Enfin bon. Donc, premier reproche, ce qui est important dans le travail des œuvres complètes, c'est la publication de ces textes, la mise en ordre de ces textes, leur éclairement par les notes qui les accompagnent, et qui sont, comme vous l'avez dit, très, très nombreuses et très détaillées, très pointilleuses. Alors, quand on l'accuse d'avoir falsifié le texte, Paul raconte, et je crois que c'est indubitable, qu'elle commence par établir une dactylographie, que cette dactylographie, elle la relit, la reconfronte, la recommence deux ou trois fois. Je crois si vous voulez, le côté pointilleux de ce travail est indiscutable. Quand je dis en effet qu'Artaud n'existe, enfin que l'œuvre n'existe pas en ce sens qu'elle est illisible, c'est vrai que tant qu'elle est déposée dans ses cahiers, ce qui me touche et ce qui touche tous les gens qui ont pu la simple pensée de l'existence de ces cahiers, c'est qu'en effet, il y a une espèce de dépôt vital, là. Enfin, au jour le jour, Artaud, en quelque sorte, se transfuse, si je puis dire, sur ces pages de cahiers, par sa graphie, par la fébrilité de son écriture, etc., etc. Bon, alors, dans beaucoup de ces cahiers, il y a une superposition de textes. Il y a par exemple un texte écrit au crayon, et par-dessus, un autre texte écrit à l'encre. La graphie est difficile à déchiffrer, très souvent. Je veux dire, c'est un travail considérable de confrontation, de pratique. Je pense que si Artaud a confié à Paul le soin de publier ses œuvres, c'est parce qu'il l'avait essayé. Il lui a dicté des textes, enfin, il l'a un peu initié à son propre travail. Je suis absolument persuadé que si Paul n'avait pas fait ce travail, enfin Paul ou quelqu'un d'autre, enfin il se trouve que c'est Paul qui en a été chargé par Artaud lui-même, ces 400 cahiers, on les aurait conservés pieusement dans une bibliothèque. Des chercheurs en auraient publié de temps en temps
des petits bouts, et ça aurait fait des petits bouts, des petits bouts.
Et ça aurait duré trois siècles. Si vous voulez, je ne sais pas, il y a un autre cas de manuscrit considérable. Husserl a laissé, je crois, 40 000 pages manuscrites qui sont déposées à Louvain. Si vous voulez, c'est assez extraordinaire cette pensée que vers la fin, enfin je ne sais pas à partir de quel moment de sa vie, Husserl pratique quasi une écriture automatique, enfin pour remplir 40 000 pages. Ben, c'est 40 000 pages, elles n'ont pas été, que je sache, publiées. Il y en a une partie qui est une infime partie qui est publiée, ce qui est bien normal d'ailleurs. Si vous voulez, si quelqu'un n'y passe pas son plus, il fallait un investissement de temps, c'est très bête, considérable. Et moi, ça me touche cette idée que, si vous voulez, la rapidité d'Artaud a impliqué, comme en vers ou en droit, le fait que quelqu'un passe le temps que lui n'a pas passé à écrire ses pages, passe ce temps à les déchiffrer.
Et ces cahiers, vous les avez vus, vous les avez touchés, ça vous a fait quoi?
Non, mais j'en ai vu, enfin Paul m'en a montré quelques-uns, comme ça, juste à titre d'information, pour montrer quel boulot elle avait à faire, quoi.
D'accord.
C'est-à-dire, je vous dis, déchiffrer quelque chose qui vous émeut à être tenu en main, parce qu'en effet, il y a une espèce de corde Artaud qui est passée dans ces papiers, une transfusion probablement unique dans l'histoire, tout ça, parce que dans son... Ça m'a frappé, si vous voulez, parce qu'il se trouve, moi j'ai... En 72 ou 13, j'ai publié Jacques Prével. Et Jacques Prével, je l'ai publié aussi un peu pour lui rendre justice, et principalement parce qu'il avait été le témoin direct d'Artaud, du retour d'Artaud et des 2 ou 3 années de vie qu'il a connu après son retour à Paris. Et donc Prével était fasciné par Artaud, aurait voulu écrire un Artaud par Prével. On sent bien que ça aurait été son... Enfin, ça l'aurait changé, si je puis dire. Ça l'aurait changé en celui qu'il rêvait d'être. Et il n'a pas pu le faire parce qu'il était malade. Il est mort 4 ans après Artaud dans un sanatorium. Mais il a écrit un Artaud qui est une sorte d'Artaud au jour le jour, qui est unique, qui est vraiment le témoignage au jour le jour de quelqu'un qui n'a pas pu se corriger et qui tous les jours notait ses rencontres avec Artaud, ce qu'Artaud lui disait, etc. Et on se rendait... Ce qui m'avait frappé en lisant ce journal et en le publiant, c'est que il était évident qu'Artaud indifféremment parler ou écrire avec la même intensité et comment dirais-je, la même souffle vital. Au fond, sa vie se transformait au fur et à mesure en paroles. Alors tantôt, s'il était avec des gens, il les parlait, et tantôt, s'il était seul, il les écrivait. Et donc, d'où ce sentiment que ces cahiers sont plus que de simples cahiers de manuscrits, c'est aussi vraiment le flux vital et d'une vie en plus qui à la fois s'exaspère et s'achève et qui est là, déposée.
Vous écrivez dans Artaud et Paul: je m'étais juré de ne jamais écrire à propos d'Artaud pour diverses raisons liées à mon adolescence à Rodez. Vous étiez à Rodez au même moment où Artaud y était?
Non, en fait, mais immédiatement après. Enfin, si vous voulez, j'ai entendu parler d'Artaud pour la première fois de ma vie par Ferdière, parce que j'écrivais quelques poèmes qui avaient intéressé Ferdière. Et donc, il y avait Artaud était... il a quitté Rodez en 46, il me semble. Et moi, j'étais au collège à Rodez, puis au lycée, à partir de... Je sais plus, un an après, je crois. 47-48, oui. Mais la présence d'Artaud était marquée. Mais sans que je sache, évidemment, très bien qui c'était, ça. Parce que les œuvres n'étaient pas accessibles. Si vous voulez, quand je suis arrivé à Paris, je suis allé lire Artaud à la Nationale et j'ai essayé d'acheter, j'avais pas beaucoup de sous, les éditions passées d'Artaud, L'Ombilique des Limbes, La Correspondance avec Rivière, Artaud le Momo, enfin, etc., etc.
Pour qualifier le travail de Paul, vous utilisez plusieurs qualificatifs. Il y a la contribution de Paul à la révélation de l'œuvre, le déchiffrement et la mise à jour, son dévouement, l'illisible est devenu lisible, j'aperçois une sorte de sacrifice, en vérité un lecteur aussi excessif dans son rôle que le fut l'auteur dans le sien, une vie qui, pour retrouver son débit, exige que le lecteur lui sacrifie le temps de la sienne. Alors, Est-ce qu'en lisant Artaud, on ne lit pas à travers Paul? C'est-à-dire que lire Artaud, ça serait en gros lire après la lecture de Paul.
En effet, je vois une espèce de mariage mystique entre Artaud et Paul. Et dans le fait qu'elle lui consacre réellement sa vie, comme, je sais pas, c'est un côté Thérèse d'Avila, au fond, quelque chose comme ça. Artaud n'est pas le dieu de Paul, mais il est l'occupation permanente, enfin, etc., etc. Mais, si vous voulez, la lectrice est indispensable pour révéler le texte, mais le révéler au sens le plus littéral, c'est-à-dire le rendre lisible, ce qui ne l'était pas. Mais évidemment qu'elle ne transforme pas le texte.
Ah oui, tout à fait.
Et elle se contente de le restituer dans un état accessible à tous les lecteurs éventuels. Voilà. Et le lecteur éventuel ne lit pas Paul, mais peut lire grâce au travail de Paul. C'est un peu différent. En même temps, son travail, si vous voulez, le sérieux de son travail de lecteur, je puis dire, apparaît dans les notes et pas dans le texte, au fond. C'est-à-dire qu'elle essaie d'éclairer, dans tous les sens du terme, le texte d'Artaud, d'abord en le rendant accessible, et ensuite elle ne l'explique pas, elle l'accompagne de toutes les notions qu'on a intérêt à connaître pour le lire au-delà du texte, si je puis dire, en reconstituant à la fois les conditions de son écriture et les circonstances dans lesquelles tout ça s'écrit, c'est-à-dire lié à son époque aussi, à ses amis, à ses rencontres, enfin, etc.
Alors vous parlez d'une communication entre Artaud et Paul, un phénomène communicant, dites-vous, entre la vitesse verbale du premier et le lent travail de clarification de la seconde. Donc c'est une communication qui a été rompue par la mort de Paul. C'est une communication qu'on essaie de cacher aussi les héritiers, puis quelque part aussi les universitaires. C'est pourquoi ? C'est parce que c'était un scandale, cette communication, parce que, en fait, votre hypothèse, c'est que c'est une communication qui passe par le corps. Vous parlez même à ce propos de transsubstantiation. Oui. Donc ça passe par le corps, cette communication.
Il y a une espèce de mysticisme. Mais, si vous voulez, pour moi, le mystique est celui qui travaille son corps. Donc le mystique est toujours matérialiste ou corporaliste, si je puis dire. Si Artaud s'est totalement investi dans cette écriture, jusqu'à en faire déjà une espèce de transsubstantiation, il faut le retour. Le retour est accompli par Paul. Je crois qu'une des choses qu'on reproche à Paul, avec raison ou pas, je comprends qu'on la lui reproche, c'est-à-dire que elle a gardé tous ses manuscrits pour elle tant qu'elle a été en vie. Artaud, c'était son affaire et c'était pas l'affaire des autres.
Oui, vous notez même, Paul était jalouse.
Elle était jalouse et elle était possessive de son Artaud. Ça, je crois que c'est indubitable. Et je pense qu'une des choses que lui reprochent les universitaires, c'est de leur avoir soustrait ses manuscrits. Mais elle les a pas soustraits pour... parce qu'elle voulait être la seule intermédiaire entre Artaud et qu'elle savait très bien à quoi s'en tenir aussi quant au travail universitaire, je pense. C'est-à-dire, les autres avaient sûrement une curiosité intéressante, bon, mais je veux dire, c'est elle avait un dévouement d'amoureuse, bon, disons.
Il y a un autre moment où vous dites « Mais il a fallu, pour restituer à ce texte sa nature de texte, que la lectrice originelle y prenne du côté du corps. » Et oui. Ça, c'est vrai que ça peut appeler qu'un dévouement, ça peut pas être un travail universitaire comme ça qui se fait par-dessus la jambe, quoi. Ça demande, oui, d'être amoureuse.
Absolument. Ouais. Et bon, ce qui m'intrigue, si vous voulez, je ne savais pas jusqu'à récemment que Paul avait terminé sa lecture de tous ses cahiers. C'est-à-dire, le travail est fini, il y a encore 6 tomes à paraître.
Donc, et c'est terminé.
Et c'est terminé, elle est allée jusqu'au bout, ce que je ne pensais pas. Elle est allée donc, la totalité, la totalité du travail a été accomplie. Donc, si vous voulez, la totalité de la vie, la vie textuelle d'Artaud, elle est retransmise.
C'est presque comme Artaud qui dit soudain « Mon œuvre est terminée, je décède », ça pourrait presque être pareil pour Paul.
Oui, si vous voulez, je pensais que sa mort l'avait empêché de terminer. Bon, alors maintenant, évidemment, on peut s'interroger sur si Gallimard ne publie pas ces 6 volumes qui manquent, quelqu'un va bien le faire, un jour ou l'autre. Alors, est-ce que ça va être sans Paul ? Puisque le travail, si vous voulez, d'établissement de texte, enfin, tout l'appareil critique enfin, qu'on peut constater dans tous ces volumes est là. Bon, il y a eu aussi, quand Grossman lui reproche l'organisation de ses œuvres, c'est qu'il y a des retours. Si vous voulez, par exemple, il y a 2 tomes 1. Mais il y a 2 tomes 1, pourquoi ? Parce qu'entre-temps, elle a retrouvé des textes de la période correspondant au tome 1 et qu'elle les a publiés sous forme d'un tome 1 bis. Bon, et c'est vrai que pour elle, rien n'était négligeable dans la production d'Artaud. Mais je pense que tout lecteur d'Artaud peut partager ce souci, afin de rendre tout accessible. Tout n'est pas égal dans une œuvre. Bon, c'est évident. Mais rien n'est indifférent, en tout cas dans cette œuvre-là. Alors je suppose que si on fait un jour un quarto des cahiers de Paris et de Rodez, je vois mal comment on pourra passer le travail de Paul sous silence. Mais je pense qu'on le passera sous silence, et que la volonté de Malocena, c'est de faire disparaître Paul. Donc, si vous voulez, la complicité de Grossman et de dans ce projet, elle me semble indéniable. Quoi qu'elle en dise.
On va dérouler un autre fil. Ce fil ou cette bulle, ça va être la fidélité. Ce qui, à mon sens, est incapable d'être fait par un travail universitaire. Parce qu'en quelque sorte, ce texte d'Artaud et Paul que vous avez écrit, c'est comment être fidèle, comment rester fidèle aux personnes, aux œuvres, et c'est aussi comment ne pas trahir. Mais ça, c'est vous, justement, c'est vous, Bernard Noël, ça. Parce que je dis fidélité, car dans ce texte Artaud et Paul, qui est écrit en 3 moments, en 96, 2001, 2003. Vous donnez la raison de pourquoi vous l'avez publié. Vous écrivez en évoquant la publication, et à un moment vous dites « bien que je la considère comme indispensable à l'acquittement d'une dette ». Alors de quelle dette s'agit-il ? Est-ce que c'est celle de l'amitié pour Paul ? Est-ce que c'est celle de sa fidélité à elle pour Artaud ? Ou alors est-ce que c'est celle du fait que vous avez pu lire Artaud grâce à Paul ? Ou c'est peut-être les 3 à la fois également ?
Oui. Si vous voulez, j'ai pas eu conscience de lire Artaud grâce à Paul, parce que, enfin, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à lire Artaud à cause de ce vague contact en point d'interrogation que j'ai connu à Rodez. Et arrivé à Paris, j'ai essayé, donc je suis allé lire Artaud à la Nationale, puis j'ai essayé d'acheter peu à peu ses livres. Bon. Et ma dette, si vous voulez, ça a été pour moi une surprise de recevoir cette lettre à un ami. Parce que je ne pensais pas que Paul puisse me faire cette espèce de cadeau qui était de me confier ce qu'elle a écrit de plus vif sur son rapport, enfin, ou de plus intime sur son rapport justement avec ce travail accompli sur les manuscrits d'Artaud. Et donc j'étais resté avec l'émotion d'avoir reçu ça, disons. Je ne me rappelle plus de quand date cette lettre, mais sans doute du début des
86, je crois.
86, oui. Peut-être.
Oui. On peut regarder dedans, je pense. Parce que c'est daté. Allons-y. Hop. 29 janvier 86.
Voilà. Et donc, quand j'arrive à New York en 96... Et j'ai la surprise de voir qu'il y a toute une série de manifestations sur Artaud, autour d'Artaud, pardon, et que je dois intervenir le dernier. Évidemment, ça me fiche la trouille, vraiment, parce que c'est vrai, je ne souhaitais pas m'exprimer sur Artaud autrement que ce que j'avais fait, c'était minime, en publiant Prével, et en publiant et en préfaçant Prével. Édition que j'avais fait d'ailleurs relire par Paul pour voir si je disais des bêtises quant aux notes, enfin à l'histoire, etc. Paul d'ailleurs n'aimait pas beaucoup Prével.
C'est ce que vous dites.
Et donc je me dis, au fond, si je fais quelque chose, si j'arrive à faire quelque chose, ça ne peut être que essayer de rendre à Paul ce qu'elle... un peu justice, disons, puisqu'elle n'est présente nulle part dans les œuvres. Alors voilà ce qui m'a conduit à écrire cette première partie d'Artaud et Paul. Je l'ai écrite en effet à New York, où je suis resté, et dans diverses universités où je suis resté près d'un mois, je crois. Donc, j'ai douté d'y arriver pendant assez longtemps. Puis un jour, ça s'est dénoué, j'ai pu écrire cet Artaud et Paul. Voilà. Et je trouvais que c'était la moindre des choses. Après tout, personne n'a souligné le rôle. Enfin, même si on le connaît, je pensais qu'il fallait au moins l'inscrire quelque part. Ensuite, évidemment, j'étais gêné à l'idée d'invoquer ce qu'elle dit de notre rencontre et des raisons pour lesquelles elle m'écrit cette lettre. Donc ça, je l'ai gommé quand j'ai lu ce texte à New York. Et après, quand même, j'y suis revenu parce que je ne pouvais pas, en quelque sorte, gommer ma raison de m'adresser à Paul et en fonction de la relation que nous avions pu avoir. Donc je suis revenu là-dessus en citant ce qu'elle dit et dont j'avais pas le moindre souvenir. En plus, c'est étrange parce que si c'était aussi marquant, ça aurait dû être marquant pour moi aussi. Donc ça, je l'avais gommé complètement. Donc ça fait l'objet d'une deuxième partie, mais enfin très brève, il me semble. Et ensuite, quand Michel Suria m'a proposé de publier ce texte sous forme de volume, je me suis dit, il faut quand même que j'ajoute autre chose ou que je revienne là-dessus. Donc j'ai essayé de revenir là-dessus parce que je ne pouvais pas gommer non plus les circonstances. Enfin, c'est pas... Donc il fallait que je raconte pourquoi et comment ce texte avait fini par...